bienvenue sur le petit plateau eh bien, qui demeure en mode Giro et en mode duo, puisque c'est la deuxième journée de repos déjà sur ce Tour d'Italie 2024. On va évidemment évoquer ce qui s'est passé lors de la deuxième semaine. Et pour en parler avec moi, eh bien, j'accueille Damien. Salut Damien.
Salut Romain, salut tout le monde.
Alors, je sais que les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais je vais quand même te reposer la même question pour démarrer ce numéro que celle que je t'ai posée il y a une semaine exactement. C'est-à-dire, est-ce que selon toi, le Tour d'Italie est plié pour le classement général ?
Je sais pas. Le maillot rose m'a pas semblé si aérien. Il met même pas 3 minutes à son poursuivant le plus proche au classement général, donc pas terrible. Très déçu sur le chrono, il bat Pagana sur un chrono plat, donc je vois quand même quelques signes de faiblesse. Puis c'est encore un jeune coureur, hein, il a 25 ans, on ne sait pas comment il peut résister à la pression, donc je sais pas, méfiance. Non, bah bien évidemment, il est plié, je vais te répondre comme la fois passée, et il est chaque fois un peu plus, donc bien évidemment, il est plié. Par contre, moi je ne vais pas te reposer la même question de si on s'ennuie ou pas, mais il y a un truc qui devient vraiment intéressant, c'est la bataille pour la deuxième place et pour le podium.
Parfait.
On voit des mecs qui se tiennent de près. Donc voilà, moi je l'ai déjà dit, j'ai un Dani Martinez auquel je ne croyais pas. Et plus les jours passent, évidemment, plus je commence à me dire que peut-être il va pouvoir le faire. Je ne sais pas si tu as un avis sur cette bagarre.
Il reste évidemment dans le coup, hein, le Colombien. J'ai envie de dire que cette étape-ci pouvait bien lui convenir. Alors, c'est peut-être un cliché, mais c'est vrai qu'on arrive à 2400 mètres d'altitude. On sait que les Colombiens, notamment, et les Sud-Américains, sont assez à l'aise, puisque c'est leur environnement naturel. Moi, j'ai été rassuré sur, en tout cas, cette 15e étape, hein, celle de Livigno, qui s'est terminée ici ce dimanche soir. J'ai été rassuré par Geraint Thomas, je trouve, nous offre un Tour d'Italie un peu capricieux. C'est-à-dire que une fois sur deux, en fait, il rassure, voire même, je ne vais pas dire qu'il épate parce que on en prend tellement la vue avec Pogacar que voilà, les autres essayent tant bien que mal de limiter la casse. Mais régulièrement, hein, on s'est déjà dit deux, trois fois depuis le début du Giro, off, Thomas, en fait, non, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être le tour de trop, et finalement, il est toujours là. Encore ici, sur cette étape, il suit plus que bien. Hein. Alors, évidemment, il ne suit pas Pogacar, mais personne ne suit de toute façon Pogacar, donc la question ne se pose pas. On avait dit, de toute façon, voilà, Thomas Martinez, on avait cité d'autres noms pour cette course au podium, et le premier qui arrive derrière, c'est Ben O'Connor. Et Ben O'Connor, il est à 1 minute finalement de cette deuxième place. Il n'y a plus de chrono, il a très bien fait d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il ne va plus perdre de temps dans les chronos sur des Geraint Thomas ou des Daniel Martinez. Donc tout va jouer à la pédale dans dans la montagne, qui est en théorie son parcours, enfin sa surface de prédilection. Donc je pense que c'est vraiment de cette roue-là que ça va jouer. Et puis l'équerre est maintenant je pense trop important, hein. Tibéri, c'est un peu la grosse inconnue d'avoir une telle difficulté sur un tel kilométrage. Il est très jeune. Et effectivement, on a vu qu'il était un petit peu court aujourd'hui, ce qui, je trouve, est un peu dommage, puisque c'était le seul qui, jusqu'ici, avait montré des velléités pour tenter, en tous les cas, de battre Pogacar lui-même. Donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai que comme je l'ai vu passer sur, je pense, sur Twitter récemment, pour revenir un instant sur O'Connor, je pense qu'O'Connor va vraiment regretter d'avoir essayé de suivre Pogacar dans Europa. Rappelez-vous, c'était la deuxième étape où c'est le seul qui avait réussi à suivre, je pense, l'espace de 10 secondes. Hein. Et puis il était resté plus ou moins 10, 15, puis trentaine de secondes, et puis il s'était cramé. Et il avait pris une minute sur tous les autres. Ben, la minute, elle lui coûte cher aujourd'hui. Mais donc voilà, je crois que c'était un match à 3 pour cette deuxième place. Et si je devais faire un pronostic, moi j'avais toujours dit avant le Giro, s'il est au top de sa forme, c'est Martinez. Le problème, c'est qu'on va arriver ici, où ça va peut-être se jouer effectivement à chaque fois au sprint pour des bonifs, il faut voir. Mais Thomas me semble quand même très en contrôle. Il s'est foiré sur le premier chrono. Sur le deuxième, bon, il m'a déçu, Thomas. Mais bon, voilà, Martinez, lui aussi, m'a très fortement déçu sur les chronos. Je m'attendais à plus, enfin, Martinez plus fort sur les chronos et à la peine dans la montagne. Et finalement, c'est un peu l'inverse. Donc, C'est assez passionnant. Et donc, du coup, ben, comme on hésite vraiment entre deux, j'ai envie de penser que ce sera O'Connor qui va venir coiffer tout le monde avec cette fabuleuse équipe Decathlon qui n'en finit plus d'impressionner, que ce soit d'ailleurs sur le Tour d'Italie ou ailleurs. Hein.
Mais c'est O'Connor, c'est presque le raisonnement inverse, c'est marrant. Moi, il me bluffe sur le chrono, mais je suis un tout petit peu déçu, je suis dur. Mais voilà, aujourd'hui, je pensais qu'il allait être au-dessus des autres. Ouais, Pogacar, évidemment, excepté, hein, mais je pensais qu'il allait faire une petite différence. Bon, finalement pas. Après, c'est encore long. Et 1 minute, ça se gagne ou ça se perd vite en montagne. Donc, pour Geraint Thomas, il y a aussi l'avantage d'avoir Arensman avec lui. C'est quand même un équipier de luxe, donc ça peut peut-être aider. Oui, vas-y.
Arensman qui vient talonner Tibéri pour le maillot blanc. Là, il y a encore
Ouais.
vraiment un match aussi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est vrai que pour les maillots, tout semble, en tout cas pour l'Euro, c'est certain. Pour le cycle à Milan, on y reviendra, mais ça semble fait aussi. Et pour le maillot bleu de la montagne, c'est fait également. Donc, il n'y a plus que ce maillot blanc qui est encore en jeu. Et là, je pense que c'est un écart. On a 19-20 secondes hein, pour l'instant. Donc, avec un gars qui revient de plus en plus en forme, Arensman, qui a fait deux super chronos et qui a montré ici que dans la montagne, il faudra compter sur lui aussi, quoi.
Ouais. Bah, Tibéri, je t'ai un tout petit peu déçu, effectivement. Mais tu parles de maillot blanc et on parlait de la lutte pour le podium. Qui sait ce que. Bon, évidemment, on est belges, on doit en parler. Hein, qui sait ce que
Yann
Kian aurait pu
Lexopex.
faire?
Tout à fait.
Tu parlais d'Europa il y a pas longtemps où Ben O'Connor s'est cramé les ailes. Moi, sur Europa, il m'avait vraiment bluffé, Kian. Après, il a toujours été au rendez-vous. Bon, les chronos, manifestement, il devra travailler. Mais en tout cas, sur les montées, il a toujours été au rendez-vous jusqu'au jour précédent son abandon où bah, il était malade. Donc finalement, sa perte, tu te dis, bah, en étant malade, c'était quand même vraiment intéressant. Donc bah, voilà, on ne saura jamais. Kian, son abandon, il suit celui de Coy. La Visma, c'est mais catastrophique cette année. Moi, je me suis posé comme question, et peut-être que la question est vraiment débile, tu vas me dire, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que ce n'est que de la malchance? Mais je ne parle même pas des chutes, ça, même les maladies. C'est des mal au printemps, il y a eu Van Baarle qui a été malade. Enfin, j'ai l'impression qu'ils enchaînent les maladies en plus des autres petits problèmes. Alors, on va me dire, bah, qu'est-ce que tu veux d'autre que soit d'autre que de la malchance? Mais j'en sais rien. Peut-être. Alors, attention, je ne parle pas de dopage. Peut-être un produit, peut-être un truc d'entraînement qui les rend tellement fit, entre guillemets, qui chopent plus vite des maladies. Enfin, j'en sais rien. Mais comment c'est possible que ça s'abat sur tous leurs coureurs comme ça Je sais pas. Je sais pas si tu as une réponse à cette question, mais
Non, et c'est vrai que c'est étonnant. Tu dis Van Baarle, on se rappelle que Laporte a été aussi
ouais.
malade, a raté des monuments à cause de la maladie. Donc, c'est pas des petits coureurs non plus. Coy, Uyttebroeks. Ce que je peux peut-être y voir aussi, c'est peut-être aussi à la volonté de Jumbo, enfin de Visma, pardon, de dès qu'il y a le moindre pépin physique, hop, on arrête. Coy remporte sa victoire. Et puis ne redémarre pas après le jour de repos parce qu'il a pris un petit rhume. Kian, on avait vu qu'il avait un petit peu à la Bocca della Selva, on avait vu que sur ces 10e étape, il avait souffert, il a terminé, il a lâché une dizaine de secondes dans le final, il se plaignait un peu de maux de gorge, mais lui-même disait, mais ça va aller, hein, je suis bien. Et puis finalement, le lendemain, on annonce qu'il ne repart pas. Donc, non seulement c'est des petits pépins physiques, des petits virus, je ne sais pas ce qui traîne là, mais. Ça a l'air aussi relativement foudroyant. Et donc, ce n'est pas des simples rhumes. C'est quand même. Enfin, la météo, on ne peut pas dire. Oui, si, parfois, il y a un peu de pluie, mais je veux dire, ils ont une belle météo. Hein, c'est de dire aussi quand on compare avec ce qu'on a vu notamment l'année passée. Donc, j'ai du mal à comprendre comment une équipe, parce que c'en est une, même si au moment où Coe y abandonne, il y a pas mal de gars où on sait qu'ils sont un peu malades, pas mal de gens qui ne redémarrent pas. On pense à Vernon, notamment, parce qu'ils sont malades. Et donc là, on se dit, ouïouïouï, ça va continuer, on va avoir, ils vont tomber comme des mouches. Effectivement, Kian est le suivant. Ah, et depuis, c'est fini. Tu me diras, depuis, il fait beau tout le temps. Il y a eu un petit peu de pluie aujourd'hui, hein, il a fait un peu froid, on verra bien, ils sont ici, montés à 2400 mètres, peut-être que ça va changer la donne, mais il se passe quelque chose chez Visma. Et ce n'est pas que une question de spirale. Ce serait des chutes, ce serait des. Oui, on peut imaginer que les coureurs soient dans un moment d'anxiété qui, du coup, leur fait perdre pardon, leur attention et leur fait commettre des petites erreurs. Ici, c'est tomber malade, donc ce n'est pas des petites erreurs. Ou alors, et là, ce serait ultra dramatique, ce sont des mecs qui prennent froid Parce que, hein, on sait bien que les obligations après le poney protocolaire, il faut répondre à la presse et compagnie. On a beaucoup salué les interviews de Keanu Tebrooks pendant toutes ces premières parties de Giro. C'était le sourire de ce Giro, le sourire du peloton. Mais voilà, c'est chaque fois prendre du temps où tu termines tes courses. Mais bon, s'il y a bien une équipe où ils ont tout prévu, tout préparé, des vestes chauffantes, c'est bien la Visma. Donc je ne peux pas croire que ce soit une erreur d'inattention ou de management ou hein, qui aurait oublié de dire à Kian, remets une veste avant d'aller à l'interview. Enfin, donc tout ça me fait me dire que, alors soit c'est effectivement un gros pas de bol, soit il y a quelque chose derrière. Et de nouveau, je ne parle pas de dopage ici, mais simplement un nutriment, on va dire ça comme ça, qui est utilisé par cette équipe et qui manifestement n'est pas au point. Et c'est pas que sur le Giro, tu l'as dit. Je prends un exemple autre chez Soudal. Hein, on voit souvent les coureurs prendre une petite bouteille dès qu'ils passent la ligne. Là, c'est les fameux cétones qui à fond polémique, hein, faut le dire. C'est pas du dopage, mais c'est quand même quelque chose qui booste, alors pas les performances, mais qui booste la récupération. Est-ce que chez Jumbo, on utilise aussi un produit comme ça? Je rappelle quand même que Jumbo a une pub sur le maillot de Cétone. Hein. Donc est-ce que c'est ce produit que Jumbo utilise et qui n'est peut-être pas au point? J'en sais rien. J'en sais rien, mais il y a quelque chose, c'est pas possible autrement.
Ouais, peut-être un produit qui, j'en sais rien, je dis peut-être une énorme connerie, je m'y connais pas vraiment là-dedans, mais peut-être un produit qui a pour effet secondaire, je veux dire, de diminuer peut-être un peu tes défenses immunitaires ou que sais-je. Peut-être pas un produit qui amène ça, mais voilà, qui fait que tu luttes moins bien, ton organisme lutte peut-être moins bien contre la maladie. Ou alors, effectivement, c'est juste la faute à pas de chance. En fait, qu'on se comprenne bien, enfin, que nos auditeurs comprennent bien ce qu'on veut dire. On ne parle pas ici que du Giro, hein, parce que oui, par exemple, Israël, ils sont décimés aussi. C'est juste que depuis le début de saison, alors peut-être qu'on ça nous marque plus, parce qu'en plus de ça, il y a les chutes, en plus de ça, il y a les autres problèmes. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça nous marque trop. Mais voilà, on a l'impression quand même que c'est un peu compliqué.
Ou alors, mais là, de nouveau, ce serait si on focalise uniquement sur le Giro, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de la part de l'équipe de se dire, bah, il y a un Tour de France qui arrive, Jonas Vingegaard, on l'a vu, hein, ça tourne sur les réseaux, il s'entraîne chez lui, au Danemark, ce qui ne plaît pas à son coach d'ailleurs. On sait que Marijn Zeeman a dit, il y a deux scénario qu'on prépare pour l'instant. Il y en a un avec Vingegaard et un sans Vingegaard. Et sans Vingegaard, des tutos ont lancé un petit peu l'enquête. Tiens, qui verriez-vous comme leader? Est-ce que vous partez avec Jorgensen qui a fait un très bon début de saison? Ou est-ce que vous donnez sa chance à Sepp Kuss? Je rappelle quand même que Sepp Kuss, c'est quand même un vainqueur de grand tour. On sait aussi qu'un Wout van Aert, il est vraiment question qu'il aille sur ce Tour de France pour reprendre de la course dans les jambes avant les JO. Est-ce qu'on ne se dit pas chez Jumbo, on va ménager un Coy, voire un Keanu Te Broeks pour les placer sur le Tour de France? Keanu, j'ai du mal à le croire. Coy peut-être. Alors du coup, est-ce que c'est pas un coup de pas de bol où on se retrouve avec une chute de Gesink, avec l'abandon ici de Coy, où l'équipe se dit, bah, de toute façon, il a gagné son étape, il a réussi ce qu'on lui demandait, on va le mettre sur le tour et on va jouer ici maillot blanc avec Kian. Paf, pas de bol. Le lendemain, Kian abandonne. Ce serait vraiment un coup de malchance.
Ouais, je me suis posé la question, mais ça fait trop. Ça fait Van
Ça fait
Aert, ça
beaucoup.
fait Coy, ça fait Kian, ça fait. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas tous ces mecs-là qui vont être rapatriés
La
sur le
porte.
tour. Et ouais, la porte. Mais oui, c'est honnêtement, j'entends que tu en parles parce que évidemment que ça peut poser question. Mais bon, enfin, je sais pas. Ta Coy, il vient de gagner une étape. Tu peux quand même gagner des étapes sur le Giro. Bah, Kian. Il ne faut pas venir le balancer leader sur le tour. Donc, ouais, je ne sais pas. Mais oui, on peut s'interroger. Coy il part, ben, il venait de gagner une étape, voire Royal pour Milan. Attention, voire Royal, il faut lui reconnaître tout son mérite parce que Merlier est toujours là. Milan, là, ça y est, on s'était demandé dans le dernier épisode qui était le meilleur sprinteur du Giro. On n'était pas nécessairement d'accord. J'espère, enfin, j'espère. Je suppose que maintenant tu vas dire quand même que c'est Milan. Tu vas me rejoindre.
Oui, bien sûr. Mais attention, hein, c'était
Du
surtout en
Giro, hein,
boutade.
attention.
Voilà.
Oui.
C'était surtout en boutade, dans la mesure où j'avais expliqué effectivement que lors du tout premier sprint massif, bah, c'était Merlier qui l'avait remporté. Et puis dans le deuxième sprint massif, Merlier avait fait, je pense, cinquième de mémoire, mais avait sprinté trois fois pour remonter. Donc, mais c'est clair que la question du placement fait partie des qualités du sprinter. Ici, il n'y a pas photo. C'est une évidence. Milan est le meilleur sprinter de ce Giro. Et quand on voit la puissance qu'il développe, je vais pas dire que c'est le meilleur sprinter actuellement du peloton, mais il faudrait voir face à un Philippe Sen ou autre. Il y a quand même un truc qu'il faut dire aussi, je trouve, c'est que on en est ici à 12, 13 jours de course, enfin à 14 jours de course, mais quand Milan gagne sa troisième étape, on est à 13 jours de course. Il donne l'impression de ne pas perdre en intensité. C'est ça qui me marque le plus personnellement. On sait par exemple qu'un Merlier, c'est quelqu'un qui a toujours très très bien démarré les grands tours et qui a eu beaucoup plus de mal à les finir. Parce qu'il passe aussi moins bien la montagne, hein, tout simplement. Mais on le voit ici. Merlier n'est pas dire qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais bon, pas de bol, il fait deuxième, on le déclasse. Et puis depuis, voilà, le cycle Amino, c'est fini. L'équipe a obtenu d'autres succès, est en lutte pour un top 10. Ils ont d'autres chats à fouetter pour l'instant. Donc on va moins en tenir rigueur. Mais c'est clair que ici, clairement, Merlier a, je pense, laissé filer la suite et on ne peut pas lui en vouloir. Il a gagné son étape. Mais c'est vrai que quand on voit l'intensité qu'il montre ici, bah, les autres face à lui, il reste qui? Il reste Groves, qui est le seul à tenir la distance dans la régularité, je veux dire. Et après, bah, c'est un petit peu chacun à son tour qui vient chercher une deuxième ou une troisième place, au point qu'on a eu une excellente deuxième place d'Anioulkowski que personne, ou très peu, j'ai vu que quelqu'un l'avait.
JB.
C'est JB, je pense. Hein, voilà.
Ouais.
Et il n'a pas nommé. Il n'a pas nommé, mais avec les
Ouais, mais il y
indices,
avait
on
deux
pouvait
trucs. Ouais, c'est
effectivement.
ça.
Voilà. Donc, chapeau à lui. Vraiment,
Ouais.
respect, parce que là, quand on parle de pronos, ça, c'était le prono fou.
Ouais.
Mais donc, effectivement, ça ouvre la voie pour tous les autres sprinteurs, mais il y a l'ogre devant. Il y a l'ogre devant.
Mais c'est pour ça que j'ai quand même précisé de ce Giro, parce que maintenant, on peut même se poser la question, est-ce que c'est le meilleur sprinteur du monde? Ça, c'est un autre débat et peut-être qu'on devra dire oui. Mais effectivement, on sait aussi qu'il va encaisser plus facilement cette répétition d'étapes avec des difficultés, etc., que Merlier. Donc, la question est si sur une course d'un jour, sur un sprint, t'as Merlier face à Milan, je vais pas encore affirmer que Milan va la gagner. Mais je ne vais pas non plus affirmer qu'il ne va pas la gagner, parce que là, comme tu dis, la puissance qu'il a, même en dehors du fait qu'il résiste mieux aux efforts, il devient vraiment impressionnant. Et moi, j'ai qu'une hâte, bon, on l'a vu un peu à Tirreno, mais c'est de le voir face à Philippe Sen. Maintenant, je n'attends plus que ça, moi.
Mais, et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner, c'est son train,
Bien sûr.
qui est sur ce Giro. Enfin, tu vas me dire, il n'y a pas énormément de concurrence, puisque Alpecin a beaucoup roulé dans la plaine, mais dans le train, c'est pas trop ça. Et bah Van Lerberghe, pour amener Merlier, il est très bon, mais ça manque d'un dernier étage vraiment de qualité. En face, quand on voit les Teuns, les Consonni, les Stuyven, c'est du tip-top. Hein. Dans chacun des sprints disputés, Milan peut commencer son sprint là où on attend que Milan soit. Hein, je viens de dire tout à l'heure, Merlier, cinquième étape, ou je crois que c'est la cinquième, doit remonter trois échelons de course pour pouvoir tenter de venir la remporter. Et donc, les autres, ben, Coy, c'est le seul qui a battu finalement en dehors ici les autres sprinteurs. Comment a-t-il gagné? Il est resté tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la roue de Milan pour vraiment le déborder sur les 25 derniers mètres. Les autres n'ont pas la puissance, tout simplement. Donc, voilà, c'est clairement le meilleur sprinter ce Giro, mais aussi de très très loin le meilleur train de ce Giro.
Ouais, on l'avait dit, hein, qu'ils avaient certainement le meilleur train. Maintenant, il y avait quand même un beau train chez Soudal. Moi, je suis quand même un tout petit peu déçu, alors que j'en dis toujours beaucoup de bien. Donc, je vais me permettre d'être un tout petit peu déçu, peut-être parce que j'entends trop, mais de Van Lerberghe, maintenant, il n'y a pas que lui, hein, Cerny. Enfin, il y avait de quoi faire vraiment un beau train chez Soudal. Peut-être pas pour être aussi bon que Lidl, mais pour rivaliser un peu plus, je trouvais.
Ouais.
Maintenant, voilà, après, Soudal, effectivement, s'exprime sur d'autres terrains. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Si je te demande de me citer pour toi le français de légende dans le sport, quoi. Un sportif de légende français, si tu me dis qui.
On
Je ne te parle pas de cyclisme, mais je te parle d'un sportif.
parle d'un sportif de l'histoire complète,
Voilà.
quoi. Donc, on ne parle pas du 21e siècle, on ne parle pas
Non,
de.
non, pour moi, un sportif de légende hein, chez les Français. Ça va être propre à chacun, je trouve, hein, mais ce qui m'intéresse justement, c'est de te prendre un peu au dépourvu, parce que je précise que ça, on établit toujours des petits ordres du jour, mais je précise que je n'avais pas dit à Romain que je lui poserais cette question, parce que pour moi, c'est une réponse qui doit se donner un petit peu comme ça à l'imprévu, sans trop
Ouais.
réfléchir.
Alors, mais je vais quand même pouvoir argumenter ou pas?
Oui, bien sûr.
Alors, je vais te dire Platini. Et je dis
Ok.
Michel Platini pour la raison suivante, c'est que le football est le sport populaire numéro un. Et donc, la plus grande star du football français ici, qui plus est quand c'était une star internationale, ça peut être la plus grande légende. Après, quand on regarde par rapport à leurs propres résultats dans leur propre sport, pour moi, Platini n'a pas régné sur le football comme un Hinault l'a fait sur le cyclisme, ou comme par exemple un Teddy Riner le fait aussi sur les tatamis. Donc, c'est très difficile. On pourrait aussi citer Alain Prost en Formule 1, qui était aussi un coureur de fou. Il y a d'autres sportifs encore plus anciens que moi j'ai moins connus qui ont rayonné dans toutes ces disciplines-là aussi. Hein. Donc, je dirais, c'est compliqué. Peut-être pour terminer, je ne vais pas être football ici, moi je cite Platini, on rappellera quand même que le nom de la Coupe du Monde, jusqu'à ce qu'on change, c'était la Coupe Raymond Kopa, je pense. Hein. Donc, non, d'un célèbre footballeur français du Stade de Reims, si ma mémoire est bonne, mais bon, là, on s'égare. Mais donc, voilà, c'est très compliqué et c'est très difficile de comparer les sports. Voilà, je pense que peut-être que Platini serait le numéro un parce que c'est le football et que les gens pensent football en priorité, en tous les cas peut-être en France, plus que dans d'autres sports. Après, si c'est le sportif qui a le plus marqué dans son empreinte, son sport, je dis, il y en a tellement. Un
Ben,
Hinault, si on
c'est
parle de
ça, en
cyclisme, je
fait.
dirais.
Ça m'intéresse parce que, donc, enfin, tu sais pourquoi je te demande ça, hein, fatalement,
Bien
ça
sûr.
tourne sur Twitter, l'extrait de, je connais même pas le journaliste, c'est Latour, je pense, c'est ça, enfin,
Ouais, la tour.
qui a un peu fait polémique parce qu'il estime que Julien Alaphilippe n'est pas un sportif français de légende, il n'est pas dans la légende du sport français, et on lui tombe dessus, et j'ai tendance à être d'accord avec lui. Moi, si tu m'avais demandé, c'est marrant, hein, pourtant, je suis pas plus jeune que toi, mais moi, j'aurais dit Zidane. Donc, tu vois, on part sur le foot, on part sur la Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde où Zidane va mettre son doublé. Et c'est vrai, je pense que ça dépend de plein de choses. Tu l'as dit, ça dépend de la popularité du sport. Ça dépend, un truc que tu n'as pas dit, parce que souvent, on vient, comme tu dis, le plus grand, c'est avec le palmarès, etc. On vient souvent avec ça. Mais un sportif de légende n'est pas nécessairement celui qui a le meilleur palmarès non plus. Je vais dire, peut-être que je me trompe, mais pour moi, enfin, oui, ça c'est peut-être très personnel, mais j'allais dire pour moi, Eden Hazard, chez nous, et mon sportif de légende peut-être sera, là c'est encore trop récent, mais quand on en reparlera, alors qu'au niveau palmarès, il aura peut-être beaucoup moins qu'un De Bruyne. Qui pourrait faire match hein, en sportif de légende. Mais je veux dire, il y a aussi la trace que tu laisses. On en a déjà parlé quand on a parlé de Pinot. Pinot va peut-être rester plus dans la légende française qu'Alaphilippe. Totalement immérité sur le palmarès. Mais je pense que voilà, un sportif de légende ne se définit pas que par les résultats. Et alors oui, la
Bien sûr.
popularité du sport, ça c'est. Tu vois, tu parles de Teddy Riner. En fait, chaque pays a sa culture sport. Certainement par les champions qu'il a aussi. Un Teddy Riner, ben c'est très bien. Moi, ça ne me parle pas du tout. Maintenant, si on avait un Belge qui excellait dans ce sport, peut-être que ça me parlerait. Donc, c'est toujours un peu difficile, évidemment, de placer ça. En fait, tout ça pour dire, donc, ben on va parler quand même de Julio Alaphilippe.
Oui.
Quoi qu'il en soit, c'est un immense champion et c'est un fameux numéro qu'il nous a sorti là.
C'est assez hallucinant. C'est-à-dire que j'ai vu effectivement, il y a entre guillemets cette polémique. Enfin, il faut, pardon pour les Français qui nous écoutent, mais j'ai parfois un peu l'impression que les Français aiment bouder leur plaisir. Je veux dire, on a un gars, indépendamment de toute l'histoire, du personnage, de tout son passé, on a un mec qui remporte une victoire après 126 km d'échappée. Et on a encore des gens qui disent Ouais, mais c'est qu'une étape du Giro. C'est vrai. C'est qu'une étape du Giro. C'est pas ça qui va faire que le palmarès de Jean-Philippe sera un palmarès extraordinaire. Le palmarès de Jean-Philippe est déjà extraordinaire. Double champion du monde en titre. Enfin, pas en titre, mais double champion du monde, c'est déjà énorme, quoi. Sans parler de toutes les courses qu'il a remportées à gauche, à droite. Mais je trouve que on a assisté à un exploit. C'est un exploit sur un grand tour, aller remporter une étape comme celle-là au terme de 126 km d'échappée. La meilleure preuve, je mets au défi quelqu'un de me trouver un commentateur sportif en direct ou autre qui, au moment de l'attaque de Julien, dit « Ah, ça y est, Julien l'attente ». Non, tout le monde a dit quoi? On a dit « Mais il est con, il est fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il y prend? Il va se cramer, il va se… » Donc il y avait vraiment l'orgueil du champion qui a fait surface. D'autant que c'est une étape où tout le monde l'attendait. Rappelez-vous qu'en 2 jours avant, il prend l'échappée, puis il se relève assez vite, le premier lâché, il va à votre médical, on se dit, oui, j'espère que c'est pas le genou. Et puis d'autres disent, ouais, mais cette fois-ci, il a peut-être couru plus intelligemment que sur l'étape des chemins blancs, et il a bien senti que ça n'irait pas, il s'économise pour la suite. Enfin voilà, pour moi, c'est déjà un exploit en soi, mais alors, quand on sait d'où revient le gars d'un point de vue mental, psychologique, c'est fabuleux, c'est fantastique. C'est l'exploit de ce Giro. Bah évidemment, quand on regardera dans 10 ans les palmarès, on verra à la flip, on dira, ah oui, il a fait un sacré numéro, et on verra les 10 minutes que Pogacar va mettre à tout le monde au général. On va dire, ouf, ça c'est extraordinaire, parce qu'on n'a plus vu un écart comme ça depuis, pas depuis Vingegaard, en fait, autour de France est passé. Mais donc, moi, je trouve que Alaphilippe c'est un des coureurs que j'adore. C'est un des coureurs de la génération Peter Sagan, finalement, ceux qui ont, dans la foulée de Bonnen, qui ont remis le cyclisme au goût du jour. Et donc, c'est quelqu'un pour qui j'aurai toujours ce respect. Donc, je ne suis peut-être pas trop objectif, mais je trouve que ce qu'il nous a fait là sur cette étape, c'était extraordinaire.
Ouais. Ce qui m'a marqué, moi, sur les réseaux, quand tu dis bouder leur plaisir, en fait, je trouve qu'il y a les deux. C'est marrant, j'ai trouvé que ça allait dans les deux extrêmes. Parce que j'ai trouvé aussi, j'ai aussi lu des trucs où, maintenant, c'est aussi un peu contre Lefebvre, hein, mais où, ben ouais, voilà, il prouve qu'il mérite son salaire. Etc. Oui, tout ce que tu as dit est vrai, c'est assez extraordinaire, dans le contexte en plus qu'on connaît. Là, il va falloir que Netflix ne se concentre pas que sur le Tour de France. Il va falloir qu'il nous fasse une série sur le Giro. C'est une histoire de film, la résurrection d'Alaphilippe comme ça, avec un numéro de 126 km. Enfin, c'est un truc de fou. Après, quand on dit ce n'est que une étape du Giro, sur la partie juste mérite son salaire, oui, c'est quand même que une étape du Giro. Il a un salaire certainement extraordinaire de champion, double champion du monde. Donc, faut pas non plus déconner dans ce sens-là. Maintenant, oui, ce qu'il a fait, c'est fou, je comprends même pas qu'on puisse pas être émerveillé par ce qu'il a fait, quoi. Et ça fait tellement plaisir de voir revenir comme ça. Alors je vais pas dire à son meilleur niveau, hein, parce que justement il faut peut-être relativiser certaines choses, mais à un niveau quand même extraordinaire. Oui, ce qu'il a fait. En fait, je sais pas parce que moi j'ai pas la mémoire des chiffres et des trucs, mais 126 km devant à deux, hein. Je veux dire, d'abord on va pas oublier qu'il n'était pas tout seul. Ça d'un côté oui, mais à deux. Ils sont pas partis à 15, ben c'est hallucinant.
Par contre, ils étaient 15-20 derrière à la prendre en chasse. Et donc, ouais, non, c'est ça. Et je te rejoins, effectivement. On ne justifie pas un tel salaire d'un des 5 ou 10 plus gros salaires du peloton. Comme on ne connaît pas les chiffres, hein, donc on suit à ce qu'on lit et ce qu'on entend à gauche, à droite. Mais donc, on ne justifie pas un tel salaire avec une étape. Ça, c'est certain. Après, c'est un ensemble, effectivement. Quand on aura vu tout le palmarès intégral de Julian Alaphilippe, on se dira, tiens, est-ce qu'il méritait un des meilleurs salaires de sa génération? Bah, peut-être quand même que oui, hein. Parce
Ah oui.
que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais c'est vrai que le cyclisme aujourd'hui s'internationalise, se popularise aussi, et donc voilà, c'est grâce à cette victoire, il va y avoir pas mal de retombées médiatiques sur son équipe également, sur les sponsors, et donc oui, peut-être qu'à ce niveau-là. De nouveau, ça ne justifie pas un tel salaire, mais ça aide à comprendre pourquoi de tels coureurs ont des salaires parfois astronomiques, parce qu'il y a plus que simplement le fait de montrer le maillot quand on passe à une arrivée, il y a tout ce qu'il y a derrière, ça c'est clair.
Ah, c'est sûr que de toute façon, Dans un sens comme dans l'autre, Alaphilippe, Philippe, ça fait parler. Hein.
Ouais.
Ça...
Et c'est vrai que tu l'as mentionné, il y avait un autre coureur, Maestri, de l'équipe Poletti Cometa, qui était avec lui, qui a clairement roulé pour, pour emmener Alaphilippe vers, vers la victoire. Mais on a vu cette image, ben c'était justement au matin de la dernière étape de cette deuxième semaine, où Julian Alaphilippe vient offrir son maillot. Alors, ça peut paraître
Pizza.
un peu dans une pizza, effectivement. Enfin, une boîte, un carton à pizza.
Ouais.
Et c'est vrai que ça peut paraître un peu condescendant. Oh, tiens, tu m'as aidé à gagner une victoire, je t'offre mon maillot. On rappelle que Remco Evenepoel l'avait fait sur la dernière Vuelta avec Romain Bardet. Mais c'est des gestes qui sont très appréciés au sein du peloton. Et il aurait pu ne pas le faire, mais il l'a fait. Et j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment quand on voit la vidéo que c'est sincère des deux côtés. Et ça fait partie des belles histoires qu'on va garder bien évidemment dans ce Giro. C'est bah, cette chevauchée extraordinaire, cette victoire. Et alors, ben, ce côté compagnonnage finalement qu'on va retrouver entre Alaphilippe et Maestri. Où là, effectivement, on a vu aussi, surtout sur Twitter, pas mal de gens qui ont dit, ah ben, donnez-moi la team, normalement, je pense, payez-moi le billet de train et je vais encourager Maestri sur la 19e étape. Donc voilà, petit clin d'œil, mais voilà, c'est vrai que c'est un coureur qui du coup va ressortir certainement de ce Giro sans avoir rien gagné, Maestri, mais son nom va rester, peut-être pas dans 20 ans, mais en tous les cas dans les mois et les années à venir, les gens vont se rappeler de lui, et voilà quelqu'un qui, chaque fois qu'il va courir en France, va être applaudi et va être encouragé parce que les gens ont retenu ça. Et donc ça fait partie des belles histoires, et ça montre aussi que le cyclisme n'est pas que une question de victoire, simplement.
Non. Et moi, je ne vois aucune condescendance dans le geste d'Alaphilippe. Comme tu dis, ça m'avait l'air sincère. C'est une belle histoire, finalement. C'est des trucs que tu vois pas dans énorme... enfin, dans énormément de sports. J'exagère, en fait. On le voit dans quelques sports, mais c'est beau, quoi, dans le sport, de voir des gestes comme ça, finalement.
Ah ben dans le football, on a parlé de football un petit peu tantôt, ben dans le football, c'est presque devenu quelque chose de naturel. Le match est fini, hop, on échange les maillots. Hein, donc,
Ouais. Oui, c'est vrai. J'allais dire, je le vois pas de la même façon, justement parce que c'est devenu traditionnel. Tu vois, il y a ce... Mais
tout à
c'est
fait.
vrai que quand tu les vois discuter entre eux, des fois, c'est bien. Non, mais je pensais, je dis ça, et puis après, j'ai l'image de Federer Nadal qui s'entendent très bien, alors que c'était une grosse rivalité. Enfin, je veux dire, finalement, oui, j'allais dire un peu n'importe quoi en disant que le vélo offre peut-être des images que les autres sports n'offrent pas. Là, je m'égare peut-être. C'est peut-être ma passion pour le cyclisme qui me fait dire des trucs comme ça, mais. Hein.
Écoute, quand sur le prochain Tour de France, Mathieu Van Der Poel ira offrir son maillot à Wout Van Aert, parce que Wout Van Aert l'a aidé à aller gagner dans je ne sais quelle étape, on en reparlera.
Et que Wout l'accepte, hein, parce que c'est, il faut encore que les deux se passent.
à fait. Le bon Tour de France, ce sera pour plus tard, avant on a encore une dernière semaine de Giro à devoir vivre. A priori, une semaine pour du beurre en ce qui concerne la victoire finale, mais une semaine où on va avoir une bataille acharnée pour la deuxième place. Que va faire Pogacar, selon toi, et on terminera par ça. Est-ce que maintenant qu'il a un matelas confortable de 6 minutes et 40 secondes, je pense, hein, sur Geraint Thomas, est-ce que on peut imaginer un Pogacar offrir des étapes aux autres, peut-être aussi à ses coéquipiers. Hein, on a évoqué Rafał Majka qui pourrait chercher un succès sur cette troisième semaine. Ou est-ce que Pogacar va vouloir mettre un point d'honneur à tout gagner et peut-être pas évidemment repartir à 50 bornes de l'arrivée, mais voilà, si on l'emmène tout en haut de la dernière ascension du jour, il n'y a pas de raison qu'il se prive d'aller faire un petit sprint de 300 mètres pour empocher une nouvelle victoire. Hein.
En fait, c'est marrant parce que justement, si on l'emmène, mais qui va vouloir l'emmener? Qui? Je suis un homme du général, je ne me fais pas d'illusions pour l'étape si j'amène Pogacar, donc je ne vois pas tellement l'intérêt de se griller. Donc il y a un risque d'assister à une course à deux étages, deux vitesses, ce serait super pour les baroudeurs, mais c'est Pogacar. Alors je ne dis pas qu'il va vouloir tout gagner, mais il va sûrement encore vouloir au moins en gagner une très belle. Et puis, s'il veut offrir à ses équipiers, il y a deux solutions. Ou bien ses équipiers partent à l'avant, ou bien ça roule et il espère que Majka va à un moment donné attaquer et que les autres vont dire, ouais, c'est bon, on te laisse aller, parce que de toute façon, Pogacar va chercher tout qui sort derrière Majka. Et si c'est le cas, bah, ce sera de toute façon encore berlute pour les équipiers, pour les baroudeurs, pardon. Je sais pas, mais bon, connaissant Pogacar, il va pas quand même s'arrêter là. Il va quand même en gagner au moins une sur la troisième
Semaine.
semaine. Ouais, j'imagine pas Pogacar dire bon, maintenant c'est fini, rideau, je gagne plus une étape. Ça lui ressemble tellement pas. En fait, ce mec, oui, tu devrais t'économiser pour le tour, mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Il est là pour s'amuser. Tu vas pas me gâcher mon plaisir sur le vélo, quoi. Tu vois? Que offrir à un équipier, je pense que ça lui ferait quand même plaisir aussi. Mais donc, le truc, c'est de prendre du plaisir sur le vélo et pas de se dire, putain, je vais faire toute une semaine en gestion à rien faire, quoi. Ça, je peux pas imaginer.
Ben, on va voir. C'est ce qu'on va attendre. On verra bien. On a encore une dernière semaine avec moins de jours de course, mais enfin, ça va être des étapes terribles hein, qui attendent ici le peloton, avec peut-être encore deux, trois belles surprises. Et alors, on lisait une course acharnée pour ce podium. En tous les cas, Damien, merci beaucoup d'être venu partager ce petit moment à l'occasion de cette deuxième journée de repos du Tour d'Italie 2024. Et on se retrouvera ben, à la fin de ce Giro pour débriefer finalement la troisième semaine et de manière plus générale, évidemment, débriefer ce Tour d'Italie avant d'évoquer très rapidement aussi la suite, puisque après, on va déjà tourner la page pour aller vers le Tour de Suisse. Il y aura aussi le Critérium du Dauphiné, évidemment, avant ça, parce que le Tour de France commencera déjà à poindre le bout du nez une fois qu'on aura atteint le Colisée. Ça rime, c'est parfait. Ça fait une belle fin d'émission, en tous les cas, Damien. Merci. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.
Salut, salut, ciao tout le monde.